Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. Eh bien, on va voyager jusqu'au Moyen-Orient. C'est pas original en ce moment, mais ce que je vais vous raconter, ce sont des histoires qui ont été transmises par un journaliste il y a déjà une dizaine d'années. François Beaune nous raconte ces histoires. J'ai toujours été un gamin intelligent, me raconte Mazer Al-Masri, Mazer l'Égyptien, le cerveau de la famille. On me poussait pour les études. Mes parents voulaient que je sois médecin. Au lycée, pourtant, j'étais comme tous les autres. Je voulais juste une BMW ou une Mercedes, trouver une gentille femme et avoir une maison à moi. J'ai arrêté l'école car j'ai raté les examens. 2 années de suite, je n'étais pas concentrée. J'avais un problème avec mes parents, avec l'autorité. Mon père a dit « Tu vas conduire des camions ». J'ai travaillé 6 mois, 7 jours sur 7, même le vendredi, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, à ramener du sable et du ciment sur les chantiers. Des bus me doublaient, pleins d'étudiants, de magnifiques jeunes filles, en route pour l'université. Mais je ne voulais pas retourner apprendre. Non, j'ai juste arrêté de conduire ces foutus camions. Après, j'ai fait taxi. 4 ans. À rien gagner. À bosser dur pour un autre. Juste quelques cigarettes et de l'argent de poche. Voilà ce que j'avais à la fin de chaque mois. Début 2008, c'est devenu pire à Gaza. Plus personne ne trouvait de travail, sauf au tunnel, à Rafah, sous la frontière égyptienne. Moi, je suis déjà grand, j'ai la haine, et je dors encore chez mes parents comme une vieille grand-mère. Mon père se moque de moi. Tous les jours, il me dit de foutre le camp, d'aller trouver du boulot. Alors un matin, je vais au tunnel. Je me mets au travail. Et je me sens heureux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être l'appât du gain. On peut se faire $1000 par semaine à creuser. Après 20 jours à retourner la terre, elle me tombe dessus et me brise la colonne. Pendant juste un instant, je ne ressens plus rien d'autre que du bonheur. Comme si j'étais libérée de tous mes soucis. Et puis la douleur se met à circuler, comme un courant à 100 000 volts, une force indescriptible. Ils me déterrent et me mettent dans une boîte, comme un sac de tomates, pour me sortir du tunnel. Puis me posent sur un pick-up. Pendant 5 jours, je reste à moitié conscient. Et puis j'entends, à un moment, la voix de ce putain de docteur qui dit qu'il va rester comme ça toute sa vie. Je me réveille en sursaut. Je lui dis qu'il rigole. Et lui ordonne de me donner quelque chose pour la douleur, que c'est insupportable, que je préfère crever plutôt que de vivre ça. Je suis à Tel Aviv, à l'Ishlov Hospital. Il a fallu 3 jours pour m'emmener là. À Gaza, il ne pouvait rien pour moi. Il décide de m'opérer. Puis 2 semaines plus tard, retour de l'autre côté. La douleur devient aussi brûlante physiquement que mentalement. Mon père a peur de me regarder dans les yeux. Il a honte. Je commence un voyage. Toutes ses économies, $85 000, pour me faire voir au Caire, à Damas, Téhéran, Istanbul, Tel Aviv, et même en Chine, il m'envoie, à l'hôpital Guangzhou. Des tas de médecins qui me promettent et puis qui se dédisent, qui tentent des choses, mais le premier avait raison. En fait, il aurait fallu m'opérer dans les 2 heures après l'accident. Je m'en veux de tout cet argent dépensé, sans certitude que je remarche un jour. Avec 85 000 $, j'aurais pu en faire des choses. Maintenant, j'habite dans une maison au 2e étage sans ascenseur. Je passe tout mon temps dans ma chambre. Parfois, mes frères viennent me voir après le travail. Rien de plus. J'essaie de trouver du travail. J'ai fait un film récemment. En fait, je vais te dire, je n'étais pas venue te raconter mon histoire, mais juste passer un moment avec un étranger, discuter un peu. Ce n'est pas souvent à Gaza. Enfin bon, la voilà. Des fois, je me dis que c'est le mieux qui me soit arrivé. J'aurais pu faire des bêtises, prendre les armes, tuer des gens. Quand j'étais révoltée, j'en ai fait des bêtises. Peut-être que tout ça, c'est pour le mieux. La finale de volley-ball. Une des choses que j'ai souvent à l'esprit, commence par me dire Fatma, c'est de penser à l'endroit où je pourrais me réfugier quand je me sens mal. Tu sais, la bande de Gaza, c'est un espace tout petit. On s'y sent vraiment à l'étroit. Et il y a peu d'endroits où se changer les idées. En tant que fille, la liberté de mouvement est encore plus restreinte. Mais moi j'ai de la chance, ma famille me laisse une marge de manœuvre importante. Quand j'étais petite, j'osais mettre en avant mon point de vue, m'exprimer. Les adultes me disaient que les enfants ne peuvent pas prendre de décision. Mais moi j'en prenais quand même. Contre l'avis de mon père, j'ai rejoint l'équipe de volley-ball de l'école. Je n'en ai parlé à personne. J'étais une joueuse comme une autre, mais l'entraîneur a fait de moi la capitaine. Ça m'a encouragée. Les matchs se sont enchaînés jusqu'à la finale. Quand on joue pour la première fois un match important, on est inquiet, stressé. À la maison, ils ont senti mon stress. Je me préparais, je mettais mes baskets, ma tenue de sport. Mon père a remarqué que quelque chose clochait, et je n'ai pas pris assez de précautions. Je n'étais qu'une enfant, j'avais 9 ans et demi. Je me suis rendue à l'autre école qui accueillait la finale, directement pour ne pas être en retard, ne pas changer de moyen de transport. On remporte le match, et en rentrant, on est heureuse, on fait la fête. On retourne à notre école pour annoncer la bonne nouvelle à la directrice. Une amie qui me devance revient en courant. « Attention Fatma, ton père est là !» Là, je suis comme touchée par la foudre. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à l'école? Je ne sais plus quoi penser. Je suis anesthésiée. J'avance quand même sans comprendre, et mon père est à l'autre bout du couloir. Je marche comme à l'abattoir, comme vers l'enfer. Mon père lance des regards inquiétants. La responsable de l'équipe tente de me rassurer. Mon père fait semblant de ne pas me voir. On retourne dans nos classes pour suivre la journée de cours. Les autres sont heureux. Et moi, je me demande quel sort me sera réservé quand je rentrerai à la maison. Arrivée chez moi, je fais le tour de notre pâté de maison 3 fois pour tenter de réfléchir à comment je vais m'expliquer. J'éprouve une peur terrible. Je passe la porte et j'essaie d'éviter mes parents. Ce qui me rassure un peu, c'est d'entendre mon père dire « Ah, voilà Fatma, elle est rentrée !» sur un ton joyeux. Mais en fait, c'est un piège pour éviter que je ne m'enferme dans ma chambre. Il me flanque une grande gifle. Ensuite, pendant 2 mois, je ne leur adresse plus la parole. Dans notre culture, pour une fille, c'est inadmissible de jouer au volley-ball. Ils se demandent qui a pu me mettre ça dans la tête. Elle n'est pourtant pas partie à l'étranger. Et la question qu'ils me posent tout le temps, « Pourquoi tu n'es pas comme nous? Pourquoi tu ne nous ressembles pas? Tu fais des caprices, tu ne fais que des choses qui nous font honte. » Mais à la différence d'autres enfants qui se contentent de se taire, moi, sans que je sache pourquoi, je n'ai pas peur. Je ne me contente pas qu'on me dise non, et je veux faire des choses choquantes. Cette finale de volley-ball a été quelque chose de dur pour moi. Mais à partir de là, mes parents ont commencé à s'habituer à mon caractère. Alors, quand je me sens mal aujourd'hui, je choisis un endroit et je fais toujours en sorte qu'il soit nouveau pour moi, que je ne l'ai jamais vu ni visité avant. Je me rends souvent dans des sites archéologiques, de vieilles mosquées, de vieux quartiers. J'aime les murs lézardés. Ces lieux dégagent une magie qui me procure une sensation de bien-être. Le fait de pouvoir me promener en touriste dans mon propre pays est une joie intense. Tout le monde se plaint qu'à Gaza, il n'y a rien à voir. Mais la plupart sont loin d'en avoir fait le tour. À Gaza, toujours en 2015, on est 3700, m'explique Zacharia, président du syndicat des pêcheurs. On a 1450 bateaux, amarrés dans 5 ports, Rafah, Canyones, Deir al-Bala, Gaza et Beit Laïga. 37 kilomètres de plage, pas de rochers. Avec les accords d'Oslo, on a eu droit de pêcher jusqu'à 20 milles des côtes. En 2002, ça a été 12 milles. En 2006, plus que 6 milles. En 2007, plus que 3. En 2011, c'est remonté à 6 milles. Le 21 mars 2012, plus que 3. Et depuis juin 2013, ils disent 6 000, mais en fait, c'est 4. Pratiquement pas assez pour se baigner. Entre 1 et 6 000, c'est la zone où les poissons se reproduisent, où ils pondent leurs œufs. Le poisson, il est après 7 000. Avant ça, on ne devrait pas le pêcher. Il est trop petit. La zone de pêche est une pyramide qui part des deux extrémités du nord-sud et se rejoint au centre, à l'ouest. Si tu mets tous les bateaux de Gaza à 4000 les uns à côté des autres, tu ne vois plus la mer. Les Israéliens nous ont volé 55 bateaux depuis 2010 qui n'ont jamais été rendus. Zacharia marque une pause. Puis me dit « Maintenant, voilà deux histoires vraies que je peux te raconter. » Le 28 novembre 2013, le pêcheur Kader Jamal Bakar et 4 collègues vont pêcher à 2 milles près de Soudaïa. À 11h du matin, un bateau de guerre israélien s'approche, tire sur le moteur. Au mégaphone, un soldat ordonne aux pêcheurs de se déshabiller, puis de nager jusqu'à eux. Kader est le premier à arriver. C'est un bon nageur, et le bateau est environ à 200 mètres du leur. Les soldats le sortent de l'eau, le menottent et lui couvrent la tête d'un sac. Pendant ce temps, 20 bateaux de pêche arrivent à la rescousse des 4 nageurs. En colère, les soldats tirent une roquette sur le bateau de Kader, détruisent 5 des bateaux, arrêtent 14 pêcheurs. Ils les gardent 5 heures, détruisent tous les moteurs, puis les remettent à l'eau. Ils n'ont plus qu'à nager jusqu'au port. Heureusement, un bateau de pêche, après un temps, vient les recueillir. Et le 28 novembre 2010, exactement 3 ans plus tôt, le pêcheur Mahmoud Mourad et son collègue Hassan se trouvent ce matin-là à 5 000 de la ville de Gaza. Le bateau de guerre israélien s'approche, tire et détruit le moteur de leur bateau. Dans le mégaphone, il crie de se déshabiller et de se mettre à nager. Hassan se met à l'eau et nage. Mais Mahmoud a une insuffisance rénale. 3 fois par jour, il doit faire une dialyse. Il ne pourra pas parcourir les 300 mètres entre son bateau et celui des Israéliens. Il sait qu'il va mourir s'il essaye de nager. La mer est froide en novembre. Alors, il reste sur le bateau, tout nu, sans se mettre à l'eau. Il reçoit une balle dans la cuisse. 20 minutes plus tard, le bateau israélien approche et le remonte à bord. Ils arriment son bateau et voguent jusqu'au port de Ashdod. Le bateau y est encore. Arrivé, il libère Hassan, puis emmène Mahmoud à l'hôpital se faire soigner la jambe et nettoyer les reins. Puis il le libère. Aujourd'hui, il continue de faire sa dialyse 3 fois par jour. Mais en plus, il boite. Zacharia fait une nouvelle pause. Je lui demande naïvement pourquoi les soldats s'amusent à les faire nager nus sur de telles distances. Il me répond qu'il pense que les soldats ont peur qu'ils aient des bombes cachées sur les chalutiers, qu'ils pourraient les déclencher comme des attaques kamikazes. Mais il ne sait pas si c'est la vraie raison. Le soir, de retour dans ma chambre à l'Institut français, je note. Ou comment transformer des pêcheurs en poissons? Ou comment humilier un pêcheur? En le faisant nager dans son propre filet. Et un peu de douceur et de larmes. À l'anglaise. Il y a presque 2 ans maintenant, me raconte Mahmoud, je me mets à échanger des mails avec une Anglaise, très blonde, très jolie, qui est déjà venue 2 fois à Gaza avec une ONG. On tchatche comme ça depuis plus d'un an et on tombe amoureux. Je lui dis qu'il faut qu'elle vienne, on a tellement envie de se voir. Gaza lui manque, elle veut vivre ici avec moi. L'idée, c'est de se marier, qu'elle devienne palestinienne et moi anglais, qu'on puisse voyager, vivre libre. Je lui écris de prendre un avion pour le Caire et que je viendrai la chercher, que je m'occupe de tout. On va entrer dans Gaza ensemble. Elle m'envoie son billet, les horaires de son vol, et puis le jour arrive. Je paye le passeur et me faufile par les tunnels. Tout se passe bien. Puis, pour me rendre à l'aéroport, je prends un taxi. À l'aller, de jour, il n'y a pas de problème. Les militaires ne t'arrêtent pas, ne demandent pas tes papiers. On dépasse Arish, puis Ismaïlia. La route traverse le Sinaï d'est en ouest, en plein désert. Je suis même en avance pour l'attendre à l'avion. On se retrouve, on est tellement heureux. Elle pleure, et moi aussi. Pour le retour, les soldats égyptiens au checkpoint vérifient les identités. Maintenant, il fait nuit. À chaque barrage, le taxi me dépose bien avant. Et je fais tout un détour à pied par le désert, sans voir où je vais, sans savoir sur quoi je marche, au milieu des animaux sauvages. Je suis seule dans le sable. Puis enfin je retrouve la route, le taxi. Pour elle, qui a ses papiers, pas de problème. Mais moi, 4 fois, je prends le chemin du désert. Et à chaque fois, je me dis que je suis fou, ou bien juste inconscient, que je vais mourir, c'est sûr. Mais il ne m'arrive rien. Les serpents et les loups ne veulent pas de moi. Enfin, on arrive à Rafah, au tunnel. Là, je paye $100, le passeur, pour nous faire entrer. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il explique au gardien que mon amoureuse anglaise, en fait, c'est sa sœur. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être qu'il croit que ça va tout arranger. Mais ce n'est pas crédible. Si elle, c'est sa sœur, moi, je suis le frère du pape. Il nous laisse quand même passer. On marche dans le tunnel, sans bien voir où on va. Je tiens mon amoureuse par la main. Elle s'agrippe à moi. Au milieu du tunnel, des soldats nous empoignent. Des soldats du Hamas. Ils nous menottent, nous séparent, nous emmènent en prison. Je sais qu'elle, ils ne l'ont pas frappée. Ils l'ont longuement interrogée. « Qu'est-ce que tu viens faire là ? Mais tu es une espionne du Mossad, etc. » Par contre, moi, pendant 3 jours, sans dormir, je ne veux pas en parler. Enfin, ils me relâchent. Mais pendant plusieurs mois ensuite, une fois par semaine, je dois me rendre à la prison. Ils m'enferment dans la partie centrale de 8 à 17 heures. Depuis, je n'ai aucune nouvelle d'elle. mon père m'a fait jurer sur le Coran de ne plus entrer en contact avec l'anglaise. Je me débrouille. J'essaie de ne plus y penser, de tirer des enseignements positifs de cette expérience qui m'a rendu, paraît-il, plus fort. Children's cries cut through the night. Every star above still weeps, but your courage holds the light. And this sky, my sorrow, my pain, your name still burns like fire in the rain. Even in chains, your voice resists, your fading light forever
children's cries cut through the night.
maintenant, François Beaune nous raconte sa rencontre avec Ahmed, le Guinéen. « Je suis content, me dit Ahmed, rencontré à la cafétéria de l'Institut français. En fait, j'ai hâte. Je vais bientôt recevoir mon passeport guinéen. » Comme je ne comprends pas, il m'explique que si tu es guinéen, tu as droit à des visas pour te rendre au Qatar. Alors Ahmed, qui a cette carte d'identité palestinienne qui ne vaut rien, qui te boucle en prison à vie, Ahmed va devenir guinéen. Mon frère et tous mes oncles, ma sœur qui s'est mariée l'année dernière, tous sont au Qatar. Ils travaillent là-bas. Moi, j'en peux plus. 8 ans de Hamas, ça suffit. Alors j'ai payé les 7 000 $. Regarde-moi bien, je vais avoir un pays, je vais être guinéen. Comme il me le demande, je regarde Ahmed. Je prends cet instant, je repense à ce passeport qu'un artiste m'a montré à Ramallah, avec un miroir à la place de la photo d'identité, et sur chaque page, en filigrane, à la place de la carte du pays, le poème « Passeport » de Mahmoud Darwish, qui finit par « Tous les cœurs du peuple sont mon identité. Emportez mon passeport. » En fait, me dit Ahmed, je ne veux pas partir. Je voudrais m'engager pour le peuple gazaoui, mais il n'y a aucune place pour moi ici. Depuis 3 ans qu'ils me harcèlent et me mettent en prison. J'ai monté une boîte de production, mais ils disent que je fais de la propagande occidentale. Peut-être qu'avec la réconciliation qui arrive, cela va changer. Réconciliation qui sera confirmée le 2 juin, puis compromise par les bombardements de juillet 2014 de l'armée israélienne. Je voudrais travailler à baisser l'âge minimal pour être parlementaire en Palestine. En 2006, j'étais Hamas, puis j'ai vu ce que ça donnait, et maintenant je participe aux manifs avec le Fatah. Mais pour moi, l'idéal serait de créer une liste, un parti, de jeunes indépendants qui représentent les aspirations des jeunes, de la majorité que nous sommes. Le Hamas a fait construire des mosquées partout, dans chaque zone, pour contrôler les jeunes. Quand tu es arrêté par la police du Hamas, la première question qu'il te pose, c'est « Quelle est la mosquée la plus proche de chez toi ?» Pour savoir où s'adresser, pour récupérer un rapport sur toi, sur tes activités, ta moralité, si tu pries comme il faut. Les mosquées ont servi à blanchir l'argent des nouveaux riches qui ont acheté le silence du Hamas en payant leur construction. Au début, le slogan, c'était « Donner pour construire des mosquées ». Et maintenant, c'est plutôt « Donner pour installer des climatiseurs dans les mosquées ». Voilà la vision politique du Hamas. Pendant ce temps, l'UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East. L'UNRWA, donc, se charge des écoles. Le niveau scolaire dans les écoles de l'UNRWA est bien meilleur que dans les écoles publiques. L'UNRWA, je ne vais pas m'en plaindre, j'ai fait toute ma scolarité chez eux. Mais eux, leur objectif, c'est de rendre la vie des pauvres moins dure pour ne pas qu'ils se rebellent. Distribuer des coupons alimentaires, du travail temporaire pour 6 mois. Sans l'UNRWA, ce serait pire. Les très pauvres deviendraient incontrôlables. Children's cries cut through the night. Every star above still weeps, but your courage holds the light. François Braun, toujours, nous raconte une histoire de baleine. Je m'appelle Assad al-Saftawi et mon père se nomme Imad al-Saftawi. Dans les années 80, il tenait une librairie à Gaza, près de l'université islamique. Il était aussi chauffeur pour les résistants de la première intifada. Un jour, un des membres de l'organisation est arrêté. Il n'est pas très entraîné à la résistance. Dès la première minute, il révèle tout sur la cellule et ses membres. Les Israéliens font le tour de la ville et arrêtent tous les hommes concernés, dont mon père. Ils sont condamnés à 45 ans de prison. Comme ils trouvent que ça fait un peu long, ils décident de s'échapper. Dans leur cellule, ils creusent le béton de leurs fenêtres pour en extraire les barres. Ce travail prend un mois. Puis, une nuit, ils partent. Pas pour fuir le pays, mais pour poursuivre la lutte. Ils sont six et quatre d'entre eux sont tués par des soldats dans la zone d'Al-Shaya'iya. Mon père et son ami Khaled Salah évitent les balles, puis décident que la seule solution est de s'enfuir par la mer, de gagner l'Égypte. Ils s'avancent le plus au sud qu'ils peuvent et se mettent à l'eau. Ils nagent pendant des kilomètres. Et Tsahal, l'armée israélienne, les cherche. À un moment, les soldats aperçoivent comme un bateau renversé. Ils se disent qu'ils doivent se cacher là-dessous. Alors ils tirent. Mais ce n'est pas un bateau, c'est une baleine qu'ils tuent. Une baleine qui s'était égarée près des côtes de Gaza, sans savoir le danger qui la guettait. Pendant ce temps, mon père, Imad et Khaled continuent de nager vers l'Égypte. Mon grand-père, qui était un des leaders du Fatah et avait donc des contacts partout, appelle ses amis dans le Sinaï pour que son fils et son ami soient attendus et pris en charge. Finalement, il retrouve les deux fuyards sains et saufs, mais impossible de rester en Égypte pour eux. Le Mossad, qui a ses indiques dans l'armée égyptienne, est sur leur piste. Ils s'envolent donc pour l'Algérie, où ils seront sûrs d'être en sécurité. Khaled Salah, l'ami de mon père, s'installe et refait sa vie en Algérie. D'ailleurs, il y est encore. Mon père, lui, s'envole ensuite en Syrie, et c'est là qu'il rencontre ma mère, qu'il tombe amoureux. Il l'emmène pour leur lune de miel en Algérie. Ils y vivent 2 ans, et mon frère Hamza naît là-bas. Puis il retourne en Syrie, vers le camp palestinien de Deraa, au sud de Damas, puis au Soudan, où je nais, en 1994, l'année de la mort de mon grand-père Assad, qui me donne son nom. Après l'amnistie d'Oslo, notre famille rentre à Gaza, et mon père continue de voyager. En 2000, il a un contrat à Abu Dhabi. Quand il revient, la seconde intifada a éclaté. Il est arrêté. Pendant 6 ans, il reste enfermé, sans le moindre chef d'accusation. Puis, il retrouve les vieux dossiers d'avant l'amnistie. Et il est condamné à 18 ans de prison pour avoir tué un soldat pendant la première intifada. Normalement, il devrait être libéré en 2018. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en prison, il y a 9 ans. Et ce texte date de 2015. Peut-être connaissons-nous un petit peu mieux ce qu'était Gaza il y a quelques années. Je l'espère. Il faut remercier François Braun. Et je vous remercie vous aussi de votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Ma Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.